avec Hélène Denis. Bon mardi, déjà le 21 octobre 2025. Soyez les bienvenus à Au quotidien. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Hélène Denis, bonjour tout le monde.
Salutations à mon collègue Denis-Martin Chabot. Je ne sais pas s'il est à l'écoute, mais il était avec vous hier derrière ce micro. Il a passé la matinée en votre compagnie. Et je le remercie d'être si loyal et si disponible. Alors, devant moi, j'accueille et je salue André Lacombe. Ça fait longtemps, André.
Bonjour, Hélène, bien sûr. Oui, ça fait longtemps. Retour de voyage.
Oh, oui, il est allé à Paris, le chanceux.
Ah oui.
Oui, vous êtes allé au Louvre avant qu'il se fasse cambrioler?
Juste avant.
Ouais.
Juste avant.
Oui, parce que là, je pense qu'il est fermé.
Ça faisait bizarre d'entendre ça.
Oui, oui. Quelle histoire.
Oui,
hein?
Tout à fait.
Alors, André, aujourd'hui, vino.
In vino veritas.
Les découvertes vinicoles d'André.
Nouvelle cuvée de vin rouge et quelques vins blancs également.
Parfait. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on aura aussi au menu à part les vins en compagnie d'André Lacombe? Le spectacle Fragment, celle qui m'habitait déjà. Une création pensée pour un public non-voyant. On en parlera avec la metteuse en scène Audrey-Anne Bouchard. Anne-Marie Aubin, elle, a lu Précieux sang. C'est le plus récent ouvrage de Marie-Hélène Voyer et elle a été conquise. Et puis à la chronique économie de Michel Poitevin, on parlera notamment de taux d'intérêt et des États-Unis. On y va avec un grand classique pour ouvrir cette émission. Voici The Beatles. I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
And I love her, the Beatles.
À la une de la presse plus, un sondage somme la presse, un appui fort aux mesures sur la laïcité et les syndicats, interdire la prière en public ou imposer un quorum pour les votes de grève. La majorité des Québécois sont d'accord, mais d'autres dossiers trônent au sommet de leurs priorités, montre un nouveau sondage somme la presse. Alors, on a plusieurs résultats. C'est Tommy Chouinard, dans l'espoir de relancer son gouvernement impopulaire. François Legault a misé sur des idées qui font mouche dans l'opinion publique, révèle un sondage somme la presse. Ce coup de sonde réalisé auprès d'un millier de Québécois montre un appui au resserrement de la laïcité et à la réforme du régime syndical annoncé par le premier ministre dans son plan de match pour la dernière ligne droite de son mandat. Son intention de couper profondément dans la bureaucratie est également applaudie. Néanmoins, ces thèmes ne figurent pas parmi les dossiers considérés comme les plus prioritaires par la population pour la prochaine année. La santé, le logement et l'éducation trônent au sommet de ce palmarès. Le dossier de l'identité est relégué derrière. Et on parle du sondage de combien de personnes a participé. L'étude a été réalisée en ligne du 8 au 12 octobre 2025 auprès d'un échantillon de 1058 adultes québécois inscrits au panel d'internautes de Somme. Dossier prioritaire, donc la santé, trois choix parmi les dossiers prioritaires du gouvernement pour la dernière année de son mandat. 69 % va à la santé, logement 49 % éducation 43 % et dans le bas complètement, souveraineté du Québec avec 3 % identité 3 % aussi. Transport collectif, 6 % qui sont des dossiers prioritaires selon les répondants de ce sondage. Environnement, 13 % itinérance, 16 % réseau routier, 17 % efficacité de l'État, 20 % économie et portefeuille des Québécois, 37 % C'est donc à lire dans la presse d'aujourd'hui. C'est le titre qui prend le plus de place de la presse plus à la une. Baseball en série mondiale, point d'exclamation. Les Blue Jays accèdent à la finale des Ligues majeures pour la première fois depuis 1993. Hausse du prix de l'or, on en parle à la une de la presse d'aujourd'hui. La montée en flèche du cours de l'or effraie des joailliers qui anticipent des ventes plus faibles pour le temps des fêtes. À la une du Devoir maintenant, immigration. Ici, c'est une autre guerre bien plus difficile à vivre. Un couple de nouveaux arrivants est engagé dans un combat contre la Direction de la protection de la jeunesse de l'Estrie qui lui a retiré ses nombreux enfants, dont un nouveau-né 48 heures après sa naissance. Même si les deux aînés ainsi que le poupon placé en famille d'accueil durant ses trois premières semaines de vie sont retournés dans leur famille depuis, cela ne risque que d'être temporaire puisque la DPJ prévoirait recommander le placement jusqu'à 18 ans de tous les enfants lors d'une audience au tribunal à la fin octobre. Des experts prônent plutôt le maintien des enfants dans leur milieu familial et des mesures d'accompagnement. On a vécu la guerre dans notre pays, mais ici, c'est une autre guerre bien plus difficile à vivre, a confié la mère, une réfugiée d'origine africaine, dont on tait l'identité pour protéger l'anonymat des enfants. Elle s'indigne qu'on doute de sa capacité à assurer la sécurité de ses petits, alors qu'elle les a protégés des balles et de la misère des camps. Ils sont arrivés ici vivants et bien portants, dit la mère au Devoir, qui l'a rencontrée avec son mari chez elle, en compagnie d'une interprète. Selon Myriam Copri, spécialiste de la parentalité en contexte migratoire qui fait de l'accompagnement auprès de ses patients, l'intervention de la DPJ était sans doute fondée à l'origine, mais une mesure d'adoption définitive ne le serait absolument pas. La famille a surmonté la guerre et le traumatisme des camps ensemble. Ils vivent certes une période d'adaptation difficile, mais ils sont ancrés dans la réalité. Ils sont capables d'accompagner leurs enfants, dit-elle, en entrevue au Devoir. Josh O'Connor passe aux aveux. On parle ici de cinéma. François Lévesque, qui a rencontré l'acteur Josh O'Connor, l'acteur britannique, parle de son rôle de voleur pathétique dans le délicieux The Mastermind de Kelly Reichardt, film qui prend l'affiche le 24 octobre de Mastermind et en français. Le titre est Le Stratège. Dans un coin tranquille du Massachusetts, James Mooney, un chômeur n'ayant pas spécialement envie de travailler, échafaude un plan visant à dérober quatre tableaux de maître dans le musée local. L'endroit n'étant à peu près pas surveillé, le vol s'avère, malgré les imprévus, étonnamment facile. Est-ce qu'on parle du Louvre ici? La suite se révèle, en revanche, beaucoup plus compliquée pour James qui, d'égoïsme en décision mal avisée, en vient à quitter femme et enfants afin de fuir la justice. Alors, le film de Kelly Reichardt, en compétition à Cannes plus tôt cette année, donne à voir une superbe composition de Josh O'Connor en criminel pathétique, selon François Lévesque. Et puis, à la une du Journal de Montréal, l'extorsion frappe l'automobile. C'est en page 5 qu'on nous en parle en détail. Félix Séguin, Selon nos informations, 4 commerces de véhicules d'occasion du secteur du boulevard Gascon à Terrebonne ont reçu la visite d'un rançonneur au début du mois d'octobre. Un individu cagoulé aurait ainsi exigé à chacun des propriétaires de 200 000 $ pour assurer leur protection. Il leur aurait aussi demandé d'installer immédiatement l'application cryptée Signal sur leur téléphone. Ce logiciel permet à 2 personnes de se parler ou de s'envoyer des messages tout en protégeant leur identité, leur localisation et le contenu de leur discussion. Une fois cette application installée, les criminels auraient déployé leur stratagème d'extorsion. Tu vas être un exemple que, quand on accepte la protection, rien n'arrive et au contraire que tu es vraiment protégé. En tout temps, tu as n'importe quel problème, tu me dis, et je le règle, écrit le rançonneur à un commerçant message que notre bureau d'enquête a pu consulter. Selon nos informations, au moins un détaillant aurait payé les 200 000 $ demandés. Les autres ont refusé. L'un de ceux qui ne voulait pas collaborer avec les criminels a été victime d'un cocktail Molotov le 8 octobre, peu après minuit. Au cours du week-end dernier, la Sûreté du Québec a arrêté un jeune de 17 ans. Il doit faire face à une accusation d'extorsion. Selon la police, il s'agirait du messager qui demandait au commerce de voitures usagées d'installer une application cryptée. Les messages menaçants ont continué malgré cette arrestation.
On va se louer un bel auto, un beau Studebaker, shiny comme un beau couteau, oh, shiny comme ton cœur. Pour toi, honey, y'a rien de trop beau, c'est toi mon invité d'honneur. Roulez, collez, roulez, collez. Et tous les jours, ce sera dimanche, une nouvelle vie commence. M'a attrapé dans mon lasso, c'est toi mon bonheur. M'a t'aimé comme un taureau, en chaleur, en chaleur. Honeymoon, le gosse au fond, roulé tout nu dans l'horizon. Roulé, calé, roulé, calé.
Abitibi, Richard Desjardins pour la pièce « Rouler-coller ».
Oui, tiré de l'album « Chaude était la nuit ». André, on y va avec la chronique vin. Aujourd'hui, vous nous parlez vin. Quelquefois, c'est voyage, quelquefois, c'est mots. M-O-T-S. Alors, allez-y donc avec les blancs pour commencer, puisqu'il ouais. y aura aussi du rouge.
Voilà, ben, comme au repas, on commence avec le blanc.
Oui.
Avec un Bourgogne de très, très bon rapport qualité-prix, parce que les Bourgognes, en général, c'est assez cher ouais. quand même. Hein? C'est le domaine Sylvaine et Alain Normand, Mâcon Village 2023. Alors, on est dans un 100% chardonnay, comme à Chablis, d'ailleurs, mais avec un résultat très différent. Le Chablis, c'est souvent très sec. Mais ici, on a plus de rondeur, mais on ne sacrifie pas la fraîcheur pour autant. On a un côté minéral un peu fruité, citronné. C'est un vin que je dirais polyvalent, très bon, par exemple, avec des pâtes au pesto. Ça peut être une petite verrine de crevettes un peu citronnée, un saumon avec une sauce crémeuse. Je vous vois saliver, Hélène.
Oui, tout ouais, ça, ça me met en joie.
Ça donne faim, tout ça. C'est tout de même 26,15 $ la bouteille, mais je le répète, pour un Bourgogne, c'est un bon rapport qualité-prix. Hein? Toujours dans le Bourgogne blanc, là, je m'étire un peu. 1,50 $ de plus. Bon. Mais je vous le recommande très fortement. Ça peut être pour une belle occasion à fêter. Le Roux, père et fils, Roux, R-O-U-X. Plus ample en bouche que le précédent, avec un côté un peu beurré, mais sans lourdeur. Tout en finesse, on a des notes de poire, de pomme, de fleurs blanches. Et avec un taux de sucre très bas, à 1,3 g par litre. C'est très, très bien fait. C'est délicieux. Ça va accompagner à merveille, là aussi, le saumon, qu'il soit frais, fumé. Ça peut être même du porc, pas trop relevé, par exemple, parce qu'on ne veut pas écraser la finesse du vin. Ou des petits fromages doux ou moyens. Et donc, ce sera 27,65 $ la bouteille.
Roux, père et fils.
Roux, père et fils.
Parlez-nous donc de Lola. Lolo.
Lolo, c'est le frère de Lola. Ou son copain.
Oui, oui, oui.
Le Lolo Rías Baixas. C'est un Espagnol. Rías Baixas, c'est une région viticole du nord-ouest de l'Espagne. Alors, élaboré à 100 % avec le cépage emblématique de cette région-là, qui est l'Albariño. C'est un blanc qui nous rappelle l'été. On a des notes de pomme verte, de citron, mais on a aussi la rondeur, une rondeur qui nous rappelle le melon, qui enrobe tout ça. C'est bien frais, mais c'est affirmé aussi au niveau des saveurs. Très intéressant comme vin, très bon avec un guacamole un petit peu piquant, ou ça peut être des acras de morue ou de crevettes. Le petit côté piquant va très bien accompagner ce vin-là. Et on est sous la barre des 20 $ ici à 19,95 $.
Non, l'été dans une bouteille.
L'été dans une bouteille. Si
et
on veut
après
le prolonger.
Le blanc, oui, on passe au rouge, André.
Avec un excellent Chianti Classico, le Carpinetto. Je ne sais pas pour vous, Hélène, mais le Chianti, c'est une appellation qui n'a pas toujours été à la hauteur côté qualité.
Mmh. Genre... On voit l'espèce de bouteille en paille, là?
Ben oui.
On mangeait ça, du spaghetti italien
ouais,
avec
on
le
mettait une chandelle
Satan.
Dans la bouteille
oui.
après.
Mais moi, ça me rend nostalgique, puis je l'ai eu ce vin-là.
Ben oui, c'est vrai que ça nous rend nostalgique. Mais j'ai en mémoire, moi, des vins, en tout cas pour certains, plutôt acides, sans grande saveur.
Ah, ouais.
Mais c'est tout le contraire ici. On reste fidèle au profil un peu plus léger des Chianti, c'est vrai. Mais on a un rouge avec des saveurs de fruits noirs, là, mûres, cassis. Un côté boisé aussi à cause de l'élevage en fût de chêne, mais c'est discret quand même. La SAQ y réfère comme étant un vin corsé, mais je ne partage pas cet avis-là parce qu'on a des tanins qui sont souples, qui sont discrets, beaucoup d'amplitude en bouche. Moi, je dirais que c'est un vin généreux, ce n'est pas un vin corsé. Ce
n'est pas un rouge léger non plus.
Ce n'est pas un rouge léger non plus. Il y en a de moins en moins avec les changements climatiques, soit dit en passant, mais ce n'est pas un rouge léger. C'est excellent avec tous les classiques italiens qui commandent un vin rouge, comme un poulet chasseur, par exemple.
Ça va avec
très,
les tomates,
très
là?
Bien aller avec ça, avec les tomates. 24,65 $ la bouteille, mais il est aussi disponible en format 375 ml à 13,95 $. Ça peut être une occasion d'y goûter à plus petit prix.
On note ça. Le domaine, est-ce qu'on dit
case? Oui. On est toujours dans le style vin rouge un peu plus léger, mais savoureux. Le domaine case Marie-Gabrielle 2023, c'est un Côte-du-Roussillon. C'est une région qui est située aux alentours de la ville de Perpignan, si ça vous situe un peu. C'est dans le sud-est de la France, tout près de la frontière espagnole. La bouteille, elle est facilement reconnaissable parce qu'on a MG96 écrit en gros sur l'étiquette.
MG
pour
Marie-Gabrielle.
C'est d'ailleurs le prénom de l'arrière-petite-fille du fondateur de la maison case, Marie-Gabrielle.
Joli prénom.
Oui. Et le chiffre 96, ça, par contre, ça reste un mystère. Ah. J'ai fouillé un peu, puis je n'ai pas trouvé... Peut-être qu'elle est née en 1996, la Marie-Gabrielle en question.
Ça se
peut. Sait-on jamais. Mais l'important, c'est dans le verre. Alors, c'est absolument délicieux.
Oui.
Personnellement, moi, je trouve que c'est un vin qui est assez floral, avec des notes de violette. Mais les notes de dégustation parlent plutôt de notes de fruits rouges et noirs, d'épices et d'herbes provençales comme le thym, le romarin. Moi, je dis, achetez-en une bouteille, puis faites-vous votre propre idée. C'est ça le mieux. Parce qu'il y a bien des raisons pour aimer un vin, puis on ne goûte pas tous la même chose.
Oui, ça peut être assez subjectif. On n'a pas les mêmes papilles.
Voilà. C'est tout juste au-dessus de la barre des 20 $. On est à 20,55 $. C'est pas du tout exagéré à ce prix-là. C'est parfait. Ça peut être avec le canard, l'agneau, même la saucisse. Ça serait un très bon choix.
Bon appétit. Ah, celui-là, je le connais, un 24.
Ah, le Combal, domaine Cosse-Maisonneuve. Il est populaire, ce vin-là, au Québec.
Il est délicieux, puis il n'est pas trop cher.
Pas trop cher, non.
Bien, il a augmenté, là, je regarde.
Il est 23,95 $. Ouais. Tous les vins ont augmenté. C'est devenu un petit luxe, on le sait. Hein? Mais buvez peu, buvez mieux.
Oui, on retient ça.
Oui, tout à fait. Le Combal domaine Cosse-Maisonneuve, donc 2021, c'est celui qui est à la SEQ présentement. Hein, le Cahors, je l'ai déjà dit, je le répète, c'était un vin qui n'avait pas une très bonne réputation. C'était le gros rouge qui tâche des Français autrefois. Des vins corsés et peu subtils. Le Combal renie pas ses origines de Cahors, mais il le fait avec un caractère affirmé, mais de la finesse aussi, même je dirais une certaine élégance. On est sur les épices, donc le cassis, même le raisin sec un peu, donc le côté un peu vieilli du raisin, mais c'est très bien fait, avec des tanins bien présents. C'est pas astringent du tout. Moi, avec un bon braisé d'automne, là, un bon bœuf braisé avec ça. Là,
un cassoulet aussi.
C'est bon, un cassoulet.
Des saucisses merguez.
Des merguez. Amenez-en des suggestions. Même une tourtière, si vous avez déjà l'esprit au fêtes de fin d'année.
Avec des viandes sauvages.
Ça, parfaitement. Avec des viandes sauvages. Bonne idée, Hélène. Et je le dis aussi en passant, parce que Cahors, on peut dire qu'on est dans le sud-sud-ouest de la France. C'est une région qui présente souvent de bons rapports qualité-prix, cette région-là.
L'avez-vous visité, cette région-là?
Je suis allé tout près, parce que j'étais dans le sud du Périgord à un moment donné, puis on n'est pas très loin de Cahors, rendu là. Mais je me promets de l'explorer.
Un jour.
Ben oui, c'est pas les idées de voyage qui manquent. On continue avec une autre suggestion. Là aussi, on est dans le sud-ouest, à Madiran. Hein, c'est tout près des Pyrénées, ça, Madiran. Le Château Bouscassé. On est là aussi sur un profil de vin corsé. On a des notes de prune et un côté boisé bien présent. C'est très typique, les vins de Madiran. Il n'y a rien qui goûte comme un Madiran.
Non.
C'est drôle à dire.
Ouais.
Là. Mais
on pourrait dire ça de
c'est très typé comme
plusieurs
vin.
Appellations.
Ouais. Il y en a qui aiment moins. Il y a même des fois un petit côté légèrement terreux. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Là. Mais c'est à essayer, en tout cas. Surtout que c'est 23,10 $ la bouteille. Là aussi, c'est souvent des bons prix. Allez-y là avec dans le confit de canard, l'agneau, le bœuf grillé, les viandes sauvages. Ça va très bien aller avec ça.
Le Château Bouscassé.
Bouscassé. B-O-U-S-C-A-S-S-C.
Ça vaut la peine de casser son cochon.
Casser son cochon. On reste dans le rouge, mais on change complètement de registre avec un Italien, le Mauro Molino Langhe Nebbiolo 2023. 100% élaboré avec le cépage Nebbiolo, donc. Oui, il en possède des caractéristiques, le côté floral et fruité, une trame un peu minérale, épicée. C'est pas une suggestion pour les amateurs de vin corsé, là, mais si vous appréciez ce profil de saveur-là, c'est très, très, très bien fait. Puis, il n'y a pas le défaut de beaucoup de Nebbiolo qui peuvent être un peu trop acides, des fois. Alors, on évite ça ici. Je dirais, moi, que c'est un rouge qui peut substituer au blanc pour plusieurs plats. Je vais vous donner un exemple. Je l'ai essayé dernièrement avec un lapin au citron et parmesan. Mmh. C'était vraiment bien comme accompagnement. Vraiment bien.
On vous croit.
Oui. 25,95 $ la bouteille. Et on termine en Provence. En Provence, au nord de Montpellier, dans le vignoble de Pic-Saint-Loup. Hein, ça profile des vins de cette région-là. Ça peut faire penser à ceux des côtes du Roussillon dont je parlais un peu plus tôt. Donc, on a le côté fruits noirs, herbes provençales. Ici, on est au Domaine Clavel, Pic-Saint-Loup, Bonne Pioche 2022.
Hey, tout un nom, hein? Domaine Clavel, Pic-Saint-Loup, Bonne Pioche.
Bonne Pioche 2022. On a ici également la petite touche de violette qui est typique des vins élaborés avec la Syrah, qui est un cépage très courant dans le sud de la France. Le petit côté anisé aussi.
Ouais.
On n'est donc pas sur un vin corsé, mais là aussi avec un vin qui est généreux en saveur, en arôme. Moi, je dis qu'un mix très gagnant avec ça, c'est le poulet portugais, un peu relevé, là, avec un peu de piri-piri. Là. C'est parfait. Il n'est pas donné. Je termine sur une note dispendieuse à $29.60. Alors, le mot d'ordre, qualité, qualité et non quantité.
Grand merci, André, pour toutes ces superbes suggestions. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans deux semaines. Vous allez nous raconter votre voyage
à Paris.
Paris. André voilà. Paris. À bientôt.
André Paris. Bye-bye.
Vanille et sa pièce se regarde.
Oh! Accompagné par une musique que j'entends dans mes oreilles.
Mais c'est le thème de fin.
Ah oui, c'est vrai! À venir, la chronique économie avec Michel Potvin.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est l'histoire du petit Kevin Tremblay qui fait le tour du lac Saint-Jean avec sa nouvelle Civic montée pis sa blonde de 15 ans. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers. Pour Arsoud à Jonquière. C'est l'histoire de Marie-Lou Thibodeau, grande adepte du compostage, qui mange local, vegan, pis bio, à part quand qu'elle part en voyage. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers. Pis ça va te partir vert. Took a back seat, took a back seat, took a back seat, took a back seat. C'est l'histoire de Joanie Gendron, à l'aventure d'occupation double, qui dit lors de son audition, je tenais paquet de troubles. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers. Pis ça se pogne un beau frère. Took a back seat. Took a back seat. Took a back seat. C'est l'histoire de gros bras grandiaux, tout droit sorti de Nicolette, qui juge à la couleur de la peau pour distribuer ses tickets. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, en endroit par en envers. Avec les cerises sur le gros nerf. Took a back seat. 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 Took a back seat.
pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète, à l'endroit par en envers. Les deux filles en boîte, s'en va squatter chez sa mère. Quand le chum, quand les dettes, t'envoies une autre de bière. Mais tu cuis sa cassette, lourdée comme un revolver. Bloqué sur l'internet, jamais défricher la terre. Fait qu'à cause qu'on est fiers. Took a back seat.
Au Québec, site Jérôme 50.
Michel Poitvin est au bout du fil, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel. Allô, allô. Il n'est pas là?
Coudon, il est parti au Québec, je vais le rappeler.
Retrouver. Bonjour Michel.
Bonjour, je suis reviendre.
Vous êtes reviendu. Bon, tant mieux. Alors, allons-y donc avec Statistique Canada qui publie ce matin de nouvelles données d'inflation.
Oui, l'inflation, pas des super nouvelles. L'inflation au Canada est à 2,4% en septembre sur une base annuelle. Elle était à 1,9% pour le mois d'août, donc une hausse. L'alimentation, c'est dû en partie à l'alimentation, là, qui l'inflation annuelle est de 4% versus 3,5% en août. Au Québec, on a une inflation plus élevée que dans le reste du Canada. On est à 3,3%, alors qu'en août, on est à 2,7%. Donc, au Québec, l'inflation est assez élevée. Puis, c'est causé en partie par les loyers. Là, au Québec, le Québec a connu la plus forte hausse des prix du loyer par rapport aux autres provinces canadiennes, une augmentation sur une base annuelle de 9,6%, c'est énorme. Alors qu'ailleurs, au Canada, là, on est plus de 3 ou 4%, là, dépendamment des provinces. L'autre chose qui affecte l'inflation, on a déjà parlé dans les autres mois, c'est la taxe carbone qui a été éliminée au Canada. Ça a fait baisser le prix de l'essence ailleurs au Canada. Puis comme on regarde, ça fait quelques mois de ça, mais quand on regarde sur une base annuelle, bien, ces mois-là sont encore dans la dernière année, donc ça affecte l'inflation. Donc, les prix de l'essence ont baissé plus ailleurs qu'au Québec. Puis c'est ce qui explique en partie pourquoi l'inflation est également plus élevée au Québec qu'ailleurs au Canada.
Alors, il y a un impact sur le taux d'intérêt?
Mais la Banque du Canada doit donner une décision sur les taux d'intérêt le 29 octobre prochain, mercredi prochain. La dernière décision de la banque, elle avait baissé les taux d'un quart de point à 2,5% après trois décisions là, où elle avait maintenu les taux à 2,75. On s'attend à ce que les taux, malgré la hausse de l'inflation, à ce que les taux baissent d'un quart de point la semaine prochaine. Le marché du travail n'est pas super vigoureux au Canada. On a un taux de chômage assez élevé à 7,1%. Au Québec, il est plus faible à 5,4, mais au Canada, 7,1. On a déjà connu plus élevé, mais on a déjà aussi connu plus faible. Donc, on s'attend à ce que les taux d'intérêt baissent la semaine prochaine, mais il reste encore 8 jours. On va voir ce qui se passe d'ici là.
D'accord. Et vous aviez des choses à dire sur nos voisins du Sud?
Oui, nos voisins du Sud, ça bouge un peu. C'est toujours excitant de regarder ce qui se passe aux États-Unis avec la politique. Excitant, mais parfois décourageant aussi. Le gouvernement fédéral, on n'a pas parlé beaucoup, là, il y avait d'autres sujets, mais depuis le 1er octobre, le gouvernement fédéral est paralysé. Qu'est-ce que ça veut dire? Aux États-Unis, on a une loi qui limite la dette maximale du gouvernement fédéral. Et cette loi-là donne un niveau en dollars. La dette ne peut pas dépasser tant. Évidemment, le gouvernement dépense plus, puis de façon périodique, ils doivent voter une nouvelle loi qui augmente le plafond de la dette. Qui vote cette loi-là? C'est le Sénat qui doit voter à 60% pour augmenter le plafond. Les Républicains ont 52%, si je ne me trompe pas, du Sénat. Donc, pour faire augmenter le plafond de la dette, ils ont besoin de l'appui de 8 sénateurs démocrates. Et puis, c'est là que ça se corse parce qu'ils n'ont pas cet appui-là. Alors, depuis le 1er octobre, on a voté 10 fois pour rehausser le plafond de la dette. Les 10 fois, ça a été rejeté. Et ce qui arrive, c'est que le gouvernement fédéral doit arrêter, couper énormément dans ses dépenses, donc arrêter de dépenser. Donc, ça fait une espèce de paralysie du gouvernement fédéral. Ça affecte les chèques de bien-être, les contrôleurs aériens, les statistiques du gouvernement. Peut-être juste mentionner que on appelle ça le shutdown, là, cette paralysie du gouvernement fédéral, c'est la troisième plus longue de l'histoire. L'histoire est relativement courte parce que cette loi-là, ça date de 1980. Mais tout de même, en 1995, sous Bill Clinton, il y avait eu 21 jours de paralysie. Puis en 2018-19, lors du premier mandat Trump, on était allé jusqu'à 35 jours. Là, on est rendu à une vingtaine de jours, là, à 20-21 jours, c'est depuis le 1er octobre. Donc, on est la troisième plus longue ou deuxième plus longue maintenant en période de paralysie du gouvernement. Puis aucune des deux parties semble vouloir céder. Les démocrates disent qu'ils vont voter pour augmenter le budget si les républicains acceptent de ne pas éliminer les crédits pour la santé, la couverture des soins de santé pour les gens les plus démunis. Les républicains ont coupé là-dedans avec l'espèce de gros, la grosse loi de Trump, le Big Beautiful Bill, là, comme il le disait. Alors, donc c'est un bras de fer, c'est une guerre d'attrition, puis il y a des gens qui payent pour ça. Puis ouais. À ce moment, on voit pas la fin de ça. L'administration Trump a commencé à mettre des gens à la porte. Puis on cible des gens qui s'occupent de programmes dans des comtés démocrates ou des personnes démocrates. Donc, il y a beaucoup de politique là-dedans. C'est pas très beau, malheureusement. Et puis, je disais, bon, les statistiques, peut-être une petite dernière nouvelle en passant. Les statistiques du gouvernement étaient pour être affectées parce que, par exemple, le Bureau of Labor Statistics qui publie les chiffres sur le chômage, par exemple, et l'emploi, ça relève du gouvernement fédéral. L'inflation américaine va sortir pour le mois de septembre, ça va sortir le 24 octobre, donc ce vendredi-ci. Est-ce que l'arrêt du gouvernement va affecter la production des statistiques? Est-ce qu'on va en avoir moins? Puis, ça, c'est sur le processus de produire les statistiques, mais aussi, ça va être intéressant de voir est-ce que l'inflation, qu'est-ce qui arrive avec l'inflation? On sait que les tarifs, il y a des compagnies qui commencent à augmenter leur prix dû aux tarifs imposés par Trump puis les mesures de représailles par les autres pays. Donc, les entreprises commencent à augmenter leurs prix. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'inflation puis à terme sur les taux d'intérêt américains? À suivre pour les États-Unis, hein, mais ça ne va pas super bien. Quand on se compare, on se console. Mm-hmm.
Au Canada, l'inflation remonte à 2,4. On a annoncé ça autour de 9 heures.
Oui. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, versus pour septembre, versus 1,9 en août.
OK, c'est correct. Et aussi, C'est parce que je disais trois choses en même temps. Il y a le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui affirme qu'une entente commerciale avec les États-Unis est possible. Lui qui va rencontrer le président Donald Trump en Asie la semaine prochaine, même si ça fait longtemps que c'est possible. Mais d'après Antoine Trépanier de la Presse Plus, ça pourrait se faire la semaine prochaine. On verra.
Ça pourrait se faire. J'imagine que je ne sais pas si le Mexique va être laissé de côté. Notre accord actuel inclut le Mexique. Parce qu'on va avoir une entente bilatérale ou trilatérale incluant le Mexique à suivre, mais l'économie des trois pays est fortement intégrée. Je pense que ce serait préférable d'inclure les trois pays, faire un bloc nord-américain, mais à suivre, comme vous le dites.
Oui, on s'en reparle. Merci beaucoup, Michel.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Daniel Bélanger aux champignons, partant clair.
Du 22 octobre au 8 novembre, le mai, Montréal Art interculturel accueille Audrey-Anne Bouchard, metteuse en scène du collectif interdisciplinaire Au-delà du visuel, avec une œuvre qui s'intitule « Fragments, celle qui m'habitait déjà ». Bonjour Audrey-Anne.
Bonjour Hélène.
Merci d'être avec nous, Audrey-Anne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, là, nous présenter Fragments, celle qui m'habitait déjà?
Absolument. Alors, Fragment, celle qui m'habitait déjà, c'est un spectacle immersif qui est conçu pour le public vivant en situation de handicap visuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un spectacle, une expérience qui implique tous les sens des spectateurs, sauf la vue. Alors, si vous êtes une personne non-voyante, vous venez au spectacle avec votre famille, vos amis. Les personnes voyantes, elles, devront porter un bandeau sur leurs yeux du début à la fin de la représentation.
Tous dans le même bateau.
Tous dans le même bateau. Et dès votre arrivée, on va donc placer les bandeaux et les interprètes, qui sont des danseurs et des acteurs, vont guider le public dans le décor de l'œuvre sur la scène et l'action va se dérouler tout autour des spectateurs. On est dans une installation qui évoque les sons, les odeurs d'une vieille maison où deux femmes vont se réfugier à deux époques différentes. Donc, il y en a une qui est en 1950 et l'autre est en 2025 pour se poser des questions, se demander de quoi elles ont envie pour leur vie. Et donc, c'est un spectacle sur l'affirmation de soi qui veut aussi mettre en lumière que certaines choses ont évolué pour les femmes depuis 1950 et d'autres pas tellement.
Et comment l'idée de cette œuvre est née?
Oui, alors ben, c'est notre deuxième œuvre dans cette forme avec mon équipe Au-delà du visuel. Nous avions d'abord créé le spectacle Camille en 2019, au mai également, donc c'est notre fidèle partenaire. Et suite à ce premier spectacle qui a vraiment été un bien accueilli de la part du public, des personnes vivant en situation de handicap visuel, on s'est dit qu'on avait envie de notre côté de poursuivre notre recherche parce que c'est une façon pour mes collaborateurs qui sont des danseurs, des acteurs, des scénographes qui font des décors, des costumes et de la musique, de vraiment aborder notre art autrement. Donc, comment on chorégraphie un spectacle qui ne sera pas vu, mais qui sera plutôt entendu, ressenti, comment on crée des costumes qui ne seront pas vus non plus, mais qui vont être plutôt peut-être touchés.
Audrey-Anne, si je peux me permettre, je me demandais qu'est-ce que ça changeait dans la manière de raconter une histoire, de la recevoir aussi, quand on exclut volontairement la vue?
Absolument, c'est une très bonne question. Et eh bien, en fait, pour les personnes non-voyantes, ça crée un espace qui est complètement accessible, qui implique tous les autres sens. Et pour les personnes voyantes, ça devient vraiment une plongée dans un univers sensoriel. Ça nous ramène aussi un peu à notre intérieur, connecté à soi, à l'autre. Et nous, ben, dans la création, c'est toute une question de rythme. En fait, tous les langages deviennent un peu de la conception sonore, tous les langages deviennent une musique et il s'ensuit aussi un grand ballet où tous les interprètes jouent des personnages, mais font aussi guident les personnes qui ont les yeux bandés ou qui sont non-voyantes. Ils leur font sentir des odeurs sous leur nez. Donc, il y a toute une chorégraphie qui s'installe.
Et il y a plusieurs personnes sur la scène. Bon, vous avez parlé de deux femmes qui vivent dans la même maison. Et il y a 75 ans d'écart entre ces deux femmes-là. Donc, ce sont des actrices, des danseuses. Qui sont ces interprètes?
Oui, donc il y a Lauriane Langis et Marie-Jo Fouché qui jouent ces deux femmes. Ce sont deux interprètes magnifiques qui viennent du milieu de la danse, mais qui ici sont également des actrices parce qu'elles ont du texte, elles ont des rôles. Donc nous, on est vraiment dans une démarche interdisciplinaire. Alors tout le monde devient un peu danseur, acteur, manipulateur et musicien. Il y a également Marc-André Lapointe qui joue les rôles masculins dans le récit et qui a écrit le texte avec moi. Et il y a Vitotas Bouchionis Jr., qui, lui, est un pianiste qui vit aussi en situation de handicap visuel, qui a composé toute la musique pianistique de l'œuvre et qui joue en direct avec le public.
OK. Alors, quand vous dites qu'il vit aussi avec une situation, qu'il a un handicap visuel, est-ce que les autres qui sont sur la scène sont aussi des personnes non-voyantes?
C'est une bonne question. Non, en fait, mes autres, les interprètes, eux, sont voyants. Comme il y a le, comme on guide les personnes qui ont les yeux bandés ou qui sont non-voyantes dans le spectacle, ils ont besoin d'avoir au moins un résidu de vision. Donc, il n'y a que moi qui accueille le public à tous les soirs, qui suis semi-voyante. Et Vito Tan, celui qui joue du piano, il est non-voyant. Les autres interprètes sont voyants. Donc, on est vraiment un collectif mixte.
Et le public est, a vraiment le privilège d'être devant, de vivre cette expérience là qui est absolument sensorielle. Et vous avez décidé aussi d'accueillir un petit nombre de participants.
Oui, c'est un très bon point. En fait, on a seulement que 9 spectateurs et spectatrices par représentation, ce qui nous permet de guider les gens au fil du spectacle dans différents espaces, de leur transmettre aussi des objets. Il y a des moments dans le spectacle où on va les amener à toucher des objets qui ont une signification particulière à un certain moment. Donc, si on veut aussi créer cette ambiance intime où tout le monde peut entendre les actions des deux interprètes à tout moment, on a fait le choix de limiter la jauge comme ça.
Et Audrey-Anne, je disais que le spectacle commence le 22 octobre, mais il y a déjà eu au moins une représentation. Je me demandais comment le public l'avait accueilli.
Il n'y a pas eu encore de représentation.
Ah non!
C'est vraiment la première.
OK, je pensais que le public... Non, c'était plutôt les journalistes qui étaient invités le 20 octobre.
Absolument. Hier, on a fait donc ce qu'on appelle un genre de media call. Je ne sais pas s'il y a un terme francophone plus juste.
Appel aux médias.
Appel aux médias, merci. Donc, on a eu 6 journalistes qui sont venus vivre vivre deux scènes. On leur a présenté deux scènes.
Ah oui, d'accord.
Et puis nous, sinon, on invite quand même des gens dans nos répétitions parce que comme guider le public fait partie de la chorégraphie du spectacle, on a besoin de le répéter avec du public. Alors, on a déjà fait 2 enchaînements avec des gens là, dans le décor, dans la salle. Ça se passe très bien.
Bien, tant mieux. En tout cas, c'est vraiment intéressant, cette démarche. Qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs, spectatrices, voyants ou non, retiennent de leur passage dans la maison qui est en fait l'endroit où se passe Fragment?
Oui, tout à fait. Bien, au niveau du contenu du spectacle, puis de l'histoire qu'on raconte, je pense qu'on avait envie de raconter que c'est très pertinent d'avoir besoin d'un espace, de se faire de l'espace, de se prendre de l'espace, du temps pour soi aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et puis que même si on a besoin de ce temps-là, ben c'est aussi à travers nos relations avec les autres qu'on va trouver une richesse qui va nous permettre de grandir puis de définir qui on est. Donc, comme je le disais, c'est un spectacle sur l'affirmation de soi. Donc aussi de donner l'envie aux gens de prendre parole, de communiquer leurs besoins, leurs envies. Puis au niveau de la forme, je dirais que c'est de réaliser à quel point une autre perception du monde, donc de ne pas avoir la vue, ça peut en fait ouvrir des possibles. Ça peut nous permettre de vivre les choses autrement, de se créer d'autres repères, puis de tisser aussi des liens d'une autre façon avec les gens qui sont là. Donc, comme c'est un petit public et puis comme les interprètes interagissent de manière intime avec les spectateurs, c'est comme si on vivait 2 heures de spectacle, tout le monde ensemble, puis à la fin, il y a une petite communauté qui existe déjà quand on en ressort.
Nous irons donc découvrir ces nouveaux possibles ensemble. Ça se passe au MAI, Montréal Art Interculturel, du 22 octobre au 8 novembre, et j'en parlais avec Audrey-Anne Bouchard, metteuse en scène du collectif interdisciplinaire Au-delà du visuel, qui présente Fragments, celle qui m'habitait déjà. Merci beaucoup, Audrey-Anne, pour cette entrevue, puis bon succès avec le spectacle. On va vous suivre, votre démarche est trop pertinente et importante. Merci.
Merci beaucoup, Hélène. Bonne journée.
Bonne journée. ça, c'est beau. Sofiane, au piano. Restez avec nous. À venir, une chanson de Clémence Desrochers et la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin qui nous présente le petit dernier, si je peux dire, de Marie-Hélène Voyer.
Vous pouvez rejoindre, vous écouter au quotidien avec Hélène Denis.
J'suis venue au monde seule, comme tout le monde. C'est seule que je continue ma vie. Adieu le père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant, à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire, je suis pas un sujet à chanson.
La vie de factory de Clémence Desrochers.
Oui, une magnifique chanson inspirée du thème de votre chronique d'aujourd'hui, Anne-Marie Aubin.
Oui, d'ailleurs, je regrettais de ne pas vous avoir suggéré cette chanson-là, puis elle est là, alors c'est parfait.
Oui, on a fait de la télépathie peut-être. Oui. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du plus récent ouvrage de Marie-Hélène Voyer. Je me souviens d'avoir lu L'habitude des ruines, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Cette fois, c'est Précieux sang, c'est publié aux éditions La Peuplade.
Oui, c'est un livre qui se divise en deux parties. La première, c'est de la poésie, qui ensuite est suivie d'un essai qui s'intitule « Voir avec des yeux de chair ». C'est un recueil toujours, comme elle sait le faire, passionnant, qui fait hommage aux femmes dans l'ombre qui ont travaillé en usine. Et comme le gouvernement du Canada a désigné octobre le mois de l'histoire des femmes pour célébrer celles qui ont fait l'histoire, je me disais que ce titre-là arrivait tout à fait dans la thématique de ce mois d'octobre. Alors, Marie-Hélène Voyer, oui, j'en ai parlé deux fois dans mes chroniques pour Mourons des champs, un recueil de poésie à la Peuplade qui s'était mérité. Ben, elle avait gagné le prix des libraires en doublé cette année-là pour ça et pour L'habitude des ruines.
Oui, l'essai.
Puis moi, j'avais adoré les deux titres et là, j'ai pas été déçue non plus dans ce livre qui fait à la manière de Mourons des champs des textes poétiques, des fragments, dans une langue qui est très près de l'oralité. On sent que c'est une personne qui a grandi auprès de gens dans les rurales, elle a su les écouter, les observer, puis ce sont des gens de peu de paroles, mais qui ont des expressions qu'elle reprend dans ça. C'est très riche comme livre. Il y a des énumérations de qualificatifs, de manière de parler des femmes qui fait très, très, très orale. Et
puis aussi d'actions qui sont répétitives, qui font en usine. On sent qu'elle a fait une recherche rigoureuse, qu'elle a fait beaucoup de lectures, peut-être qu'elle a cueilli des témoignages. C'est très réaliste. On sent qu'il y a des noms qui sont cités, par exemple les victimes d'une usine avec leur âge, leur nom. Alors, ces gens-là sont morts parce qu'ils ont respiré des substances toxiques ou il y a eu un incendie ou autre chose. Et au bout de tout ça, on sent que beaucoup de femmes ont abîmé leur santé, parfois ont payé de leur vie. Pourquoi? Pour le profit, la productivité. Et tout ça, c'était avant qu'il existe les syndicats qui protègent les gens, finalement. Et le titre, Précieux sang, c'est un petit peu sarcastique parce que ça peut faire penser au sang du Christ. Il y a une communauté religieuse à Saint-Hyacinthe ici qui s'appelle les religieuses du précieux sang de Jésus, qui sont des cloîtrées, donc des femmes qui finalement sont isolées. Mais aussi, il y a question du sang des bêtes qu'on abat dans l'abattoir, puis du sang de ces femmes qui ont été sacrifiées, évidemment, pour le progrès des usines.
Oui, parce que la jaquette du livre nous montre une femme, en tout cas un visage de femme avec du sang, comme si les larmes étaient en sang.
Oui, puis il y a question d'une personne qui est borgne, qui est une grande tante, et elle nous dit que, bon, l'usine a mangé, a viandé mon visage, quelque chose comme ça, pour montrer comment, finalement, il arrivait plein d'incidents dont on n'a jamais parlé et qu'il fallait continuer, il fallait que la chaîne continue, il ne fallait pas s'attarder à ça.
On avance, malgré la tragédie.
Oui, c'est cruel. Il y a des fois, il y a une fille que ses cheveux sont dans le rouleau compresseur, je sais pas quoi, là, puis là, bon, ben, il dit, il faut pas arrêter, là, enlève les cheveux de là, il faut que ça continue à produire. Alors, c'est vraiment
cruel.
Oui, et puis bon, ben, dans la première partie, on parle des femmes en général, puis elle va donner des noms à ces chapitres. Par exemple, le premier, c'est Simone des Radieuses Misères. Elle, a travaillé dans les usines d'allumettes et elle est morte, comme plusieurs autres, de la nécrose maxillaire ou encore empoisonnée par les vapeurs dans l'usine qui s'appelle E.B. Eddy à Hull. Alors, ensuite, il y a Clémence des Fulminantes Amorces. Elle travaille dans une usine de munitions. Puis, bon, ben là, il y a une fille qui va mourir brûlée. Alors, je la cite. « Il paraît qu'une fille qui fumait cachée est morte brûlée raide dans les toilettes de l'usine à Saint-Paul-d'Hermite. Tu parles d'une place pour mourir. Moi, je pense qu'on raconte ça pour nous enlever l'envie de désobéir et d'aller pisser. » Parce qu'effectivement, il était surveillé à l'ouvrage, il y avait des contremaîtres, et puis bon, elle devait produire tout le temps. Ensuite, elle fait « Florence des airs viciés ». Ça, c'est le troisième chapitre, ça parle de l'amiante. Alors là, c'est sûr, ces gens-là ont travaillé en usine et puis c'était des conditions très difficiles. Plusieurs ont attrapé des maladies par la suite. Et elle raconte, je la cite, « Femme sans fleuve, vous flottez dans les marées basses de nos mémoires, dans les ressacs assourdissants du présent. Nous vous rejoignons chaque nuit au ras du temps, sur ces rivages encombrés où les mortes et les vivantes ravaudent sur les grèves de l'oubli. » Donc, il y a des choses qui sont très réalistes où on raconte des situations, puis il y a des moments qui sont plus poétiques et ça ressemble à des complaintes, finalement. La quatrième partie, c'est Marie des Immaculés Saints. Alors ça, c'est à l'abattoir, c'est vraiment épouvantable. On voit défiler les bêtes et puis elle voit ça, puis très jeune, elle raconte des anecdotes par rapport à ça, puis elle va dire, je la cite, « Quand je ferme les yeux, ça persiste, ça m'assomme. » Ça dépaisse encore, ça écorche, ça entaille. Tout ça me vire le cœur, tout ça chaque jour que le bon Dieu fait, chaque jour le cœur à la gorge, les vertiges d'ammoniac, la senteur sombre de la mort, l'insistante familiarité du sang, la foi sans grâce. 6 jours sur 7, je goûte dans l'air le jus des chairs, les sangs brouillés, des sentences de lymphe. Le 7e jour, j'avale le corps du Christ. Un remords pâle.
Ouais.
Bon, alors on sent comment c'est dur dans l'usine, ce qu'ils voient, puis ces bêtes-là, puis là, il y a du sang, effectivement. Puis la 5e partie, c'est Germaine des Guenilles. Alors là, c'est l'usine de couture, les gens qui travaillent dans le textile. Puis elle dénonce finalement comment il y avait des filles qui, pour monter de grade, ben finalement étaient fin-finaudes avec le contremaître. Puis cette Germaine-là qui se prenait pour une autre, ils l'ont toute comment pris à partie, sont mis à rire d'elle, mais elle va mourir brûlée. dans des circonstances vraiment un peu comiques, finalement. Puis là, ils vont l'appeler Sainte-Germaine, puis ils vont la prier chaque jour. Fait que finalement, il y a beaucoup d'humour dans même ce drame noir-là. Il y a un peu, finalement, de vision qu'elle va avoir qui vont rendre la chose un petit peu moins dramatique.
Il y a des ressorts comiques.
Oui, et puis la dernière partie qui est beaucoup plus courte, ça s'appelle « Voir avec des yeux de chair ». C'est un petit essai où il y a des fragments qui sont beaucoup basés sur ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Et « Voir avec des yeux de chair », ça vient de l'Ancien Testament et ça vient du livre de Job, c'est ce qu'elle nous dit. Bon, ben elle va raconter des anecdotes de sa vie qui sont très intéressantes. Par exemple, elle est toute petite, elle a 10 ans, elle passe un été à photographier toutes sortes de choses avec une caméra qu'elle va trouver dans les choses de sa mère, une caméra instamatique là, qui fait clic-clic quand on tourne. Bon, puis au bout de l'été, elle va dire à sa mère, ben ça serait bien de faire développer le film pour que je voie mes photos. Et sa mère lui dit, mais il n'y a pas de film là-dedans. Alors, elle a photographié tout l'été des choses qu'elle ne pourra pas voir, mais elle dit, ces images existent pourtant avec une surprenante exactitude dans ma mémoire. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que moi, quand je voyage, j'essaie de prendre le moins de photos possible, mais de les enregistrer dans ma mémoire parce que je trouve que les gens prennent beaucoup trop de photos. C'est la folie furieuse depuis qu'on a des téléphones. Et là, je vois que c'est un peu ça qui est arrivé finalement. Et on voit l'observatrice en elle qui a rêvé ces images-là. Et plus loin, elle va dire qu'elle adore les photos qui sont un peu ratées, qui sont pas bien
cadrées.
Oui, comme celle qui est sur la page couverture, qui est un peu déchirée, tout ça. Elle est fascinée par les photos. Elle va faire quelque chose là-dessus, c'est sûr, un jour. Donc, ces photos imaginaires de son été, ben c'est ça qui ouvre la deuxième partie. Puis ensuite, elle raconte différentes anecdotes. Par exemple, un jour, ses parents, son grand-père et son père, étaient dans la grange, puis la grange s'est effondrée. Elle n'était même pas née à ce moment-là. Et elle a voulu, donc... qu'il le raconte, parce qu'il semble qu'au moment où ça s'est effondré, vite, ils sont sortis de la grange en riant. Puis, c'est tout. Puis plus tard, elle a voulu qu'il raconte ça, mais elle dit il y avait un refus de fabriquer rétrospectivement un récit de miraculé. Puis elle dira, dans nos albums de famille, nos photos sont sans légende. Alors, c'est vrai que souvent, on va trouver des albums de photos où il n'y a rien d'écrit sous les photos,
ouais.
Mais c'est des souvenirs. Puis là, on sent très bien qu'elle, dans sa famille, les gens n'ont pas envie de raconter ces choses-là parce que c'est pas toujours drôle, effectivement.
Et ils n'identifient non plus les personnages.
Oui, puis c'est une génération d'hommes qui parlaient pas aussi. Et puis bon, ben plus tard, elle va raconter aussi que sa grand-mère paternelle est allée quitter la place, à Saint-Fabien-sur-Mer, là. Puis elle est partie travailler dans une usine à Montréal. Puis elle dit, mon grand-père est allé la sortir de là, l'a demandé en mariage. Puis maintenant, il y a un silence autour de ça. Puis elle, je la cite, sur cette parenthèse ouvrière, elle est avare de détails. Je n'insiste pas. Certaines images sont inaccaparables. Alors ça montre très bien la vie en usine. Puis ensuite, il y a sa tante Stella qui était borgne. Elle dit, l'usine m'a déviandé la face. C'est beau comment c'est dit.
Ah, c'est... Bref, moi, corps... ça me lève le cœur, le mot oui, déviander la face.
Ah oui, effectivement, c'est vraiment
cruel. C'est atroce, cruel. C'est violent.
Oui, puis il y a des scènes qui sont vraiment troublantes. Alors, je me dis, si cette autrice a vécu autour de ces personnages qu'elle décrit où elle a été vraiment marquée. Puis ensuite, toutes les lectures qu'elle a faites, les témoignages, les livres qu'elle a lus, c'est clair que ça l'a marquée et on le sent dans le livre. Et nous aussi, ça nous marque parce qu'on se dit, ouais, toutes ces femmes-là quand même, puis qu'on n'a jamais parlé de ça. C'est un sujet vraiment pas très répandu. Là.
Est-ce que les deux parties sont d'égale force, Précieux sang suivi de Voir avec des yeux de chair? Est-ce que vous avez été captivée par les deux parties de façon équitable?
Les deux sont
équitable?
Très intéressantes. L'autre est beaucoup plus bref et plus personnel, alors que l'autre, c'est sur les autres femmes.
Ouais.
C'est comme si elles se mettaient dans leur peau. Et ça, c'est bien, parce qu'elle l'a bien raconté, puis elle sait nous rendre la douleur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de leur corps. Et ces femmes-là ne se plaignent pas, elles ont une vie dure, mais c'est la vie qui continue un peu comme l'histoire de Clémence qu'on entendait en introduction, qui fait la même routine chaque jour, puis qui dit finalement, je suis pas un sujet à chanson,
mm-hmm.
mais c'en est une. Et toutes ces femmes-là étaient sujets à écrire des histoires. Et c'est pourquoi je pense que Marie-Hélène Voyer s'est penchée là-dessus. Elle a dû certainement prendre un congé sabbatique parce qu'elle enseigne la littérature au cégep de Rimouski, puis elle a dû prendre un congé parce que c'est un, on sent beaucoup de temps de lecture et de travail pour arriver à ce livre-là, qu'on appelle poésie, mais qui se lit comme un roman.
Précieux sang, c'est le titre qui est à la une, donc, qui est sur la jaquette du livre. Oui. Et c'est suivi de Voir avec des yeux de chair par Marie-Hélène Voyer, publié aux éditions La Peuplante. C'est 196 pages, c'est quand même pas trop décourageant comme nombre de pages.
Non, puis ce sont tous des petits fragments. Des fois, c'est 4 lignes, parfois c'est 10 lignes. C'est vraiment pas du texte comme un grand roman. Là. Ça se lit doucement et chaque chapitre a un thème avec aussi un chant et puis on sent évoluer la situation à travers le chapitre. Puis là, on voit combien, mon Dieu, de femmes se sont sacrifiées pour le bien-être de certaines compagnies. Là. Alors, c'est révoltant. Il n'y a pas d'autre mot.
Révoltant, mais il faut quand même s'y plonger. C'est...
Oui, oui, c'est vraiment bon.
Allez,
oui.
Merci Anne-Marie.
Au revoir, à la semaine prochaine.
Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Rien de neuf ici, tout va pour le mal, ça frôle la guerre mondiale. La planète est à Dieu et à craint, et comme les gens seront toujours les gens, ce qui se rapproche le plus de l'infini, ça reste l'humanité. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Oh! Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Ici, on se nourrit de mirages en guise de bons présages. Changer chacun dans sa niche. Les pauvres seront pauvres et les riches seront riches. Les créateurs de contenants stupides nous scellent l'âme sous vide. Sinon tout va très bien pour la haine. Qu'est-ce que tu veux, l'horreur est humaine. Comme on dit, ça prend beaucoup. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis. Tellement plus triste depuis. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Oh!
Ballon sonde, la chanson de J.F. Posé.
Oui, c'est le premier extrait de son album solo qui connaît beaucoup, beaucoup de succès, Les amours de seconde main. Alors, je vous en avais parlé la semaine passée, j'avais commencé à lire ce texte des avancées qui ont transformé le quotidien des patients. Comment ça va? Ces trois mots servent souvent d'introduction pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Cet automne, Le Devoir s'inspire de cette expression pour tâter le pouls de notre monde. Dans ce texte, on examine les avancées qui transforment le quotidien de patients atteints de maladies comme le Parkinson, la sclérose en plaques, la SLA ou l'Alzheimer. On a parlé d'Alzheimer, un texte écrit par Florence Morin-Martel. Allons-y avec le Parkinson, la maladie de Parkinson est causée par la perte progressive de neurones dans le cerveau. entraînant une baisse de la production de dopamine et par conséquent une diminution du contrôle des mouvements. Il en résulte notamment des tremblements, des raideurs musculaires et une lenteur des mouvements. À ce jour, il n'existe aucun remède, mais des traitements de plus en plus accessibles permettent désormais de mieux contrôler les symptômes dans les stades avancés de la maladie. Depuis plus d'un an, une pompe sous-cutanée nommée Vialev est offerte au Québec et remboursée à certaines conditions. Je vous appelle cette pompe VYALEV. Elle diffuse la médication en continu, ce qui permet d'éviter les montagnes russes de symptômes au fil de la journée, explique le docteur Ariel Lévy, neurologue et professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Plus efficace que les comprimés oraux et plus accessible que la stimulation cérébrale profonde et la pompe intestinale, cette technologie transforme la prise en charge, dit-il. Le diagnostic, lui aussi, s'est affiné. On commence à pouvoir distinguer les formes de Parkinson à progression lente de celles qui évoluent plus vite. Cela permet d'ajuster le traitement plus tôt ou d'intégrer plus rapidement certains patients dans des projets de recherche, souligne le docteur Lévy. Maintenant, la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Lou Gehrig ou de Charcot, affecte les cellules nerveuses motrices qui contrôlent les muscles volontaires, ceux qu'une personne active consciemment pour parler ou pour bouger les bras et les jambes. Progressivement, les muscles s'atrophient, ce qui rend les gestes les plus simples de plus en plus difficiles. Actuellement, la SLA ne peut être guérie. Chez 80 % des personnes atteintes, l'espérance de vie moyenne est de 2 à 5 ans après le diagnostic, selon l'organisme SLA Québec. Dans environ 10 % des cas, la sclérose latérale amyotrophique est d'origine génétique. Une avancée récente marque un tournant pour certains patients. L'arrivée du Tofersen, T-O-F-E-R-S-E-N, un traitement ciblé conçu pour ralentir la progression de la SLA chez les personnes porteuses d'une mutation du gène SOD1, présente chez environ 1 % des cas, souligne le Dr Nicolas Dupré, neurologue au CHU de Québec Université Laval et professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Le Tofersen représente donc une percée, même s'il ne concerne qu'une minorité de patients. Cela n'empêche pas le médecin d'y voir un jalon important. Pour la première fois, un traitement ciblé pour une forme génétique de SLA existe. C'est un véritable changement de paradigme, affirme-t-il. Le traitement a été commercialisé au pays en mai dernier. Au Québec, il est actuellement évalué par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Le gouvernement décidera ensuite s'il l'ajoute ou non à la liste des médicaments assurés. Et finalement, la sclérose en plaques. Maladie neurologique chronique, la sclérose en plaques s'attaque à la myéline, cette gaine protectrice des fibres nerveuses, essentielle à la transmission de l'influx nerveux. L'inflation qu'elle provoque entraîne souvent une détérioration de cette substance. Cela entraîne des symptômes comme de la fatigue extrême, de la faiblesse musculaire, des troubles sensoriels, visuels, cognitifs ou encore urinaires, ainsi que des changements d'humeur. Mais le visage de la sclérose en plaques a radicalement changé en 2 décennies. C'est la discipline en neurologie qui a le plus évolué en matière de traitement, affirme le docteur Alexandre Pratt, neurologue et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la sclérose en plaques. En 10 ans, on est passé de 5 ou 6 options à une 15aine. Lorsqu'elle est diagnostiquée tôt et bien prise en charge, la sclérose en plaques n'est plus la maladie invalidante qu'elle était autrefois. La majorité de ces traitements sont offerts au Québec et permettent non seulement de ralentir la progression de la maladie, mais aussi d'améliorer significativement la qualité de vie des patients. On voit alors beaucoup moins de patients qui atteignent le fauteuil roulant, même s'il y en a pour qui c'est encore le cas. Le diagnostic s'est affiné avec les années, ce qui permet aujourd'hui une détection plus précise de la maladie. La prise en charge des patients dans des cliniques spécialisées est donc de plus en plus systématique, ajoute le spécialiste. Et chez certains patients ayant commencé un traitement il y a 10 ans, les résultats sont impressionnants. La maladie semble complètement stoppée. une guérison en vue? Le Dr Pratt reste prudent. On ne sait pas encore ce qui attend ses patients dans 20 ans. Seul le temps nous le dira. Donc, des avancées qui ont transformé le quotidien des patients. Faites du bien une fois de temps en temps des bonnes nouvelles. Le silence est fort. L'organisme Homme Québec, fondé par le psychanalyste, auteur et conférencier, le regretté Guy Corneau, lance aujourd'hui sa campagne de sensibilisation à l'importance de s'occuper de la santé et du bien-être des hommes. L'organisme, appuyé par ses porte-paroles, l'animateur, auteur et conférencier Richard Turcotte et les auteurs-compositeurs-interprètes Jean-François Brault et Martin Léon, invite les hommes à travers la province à ne pas hésiter à aller chercher de l'aide aux besoins, que ce soit auprès de leur entourage, d'Homme Québec ou d'autres ressources disponibles. La campagne se conclura par la tenue de la 6e édition du prix Hommage Guy Corneau, le 15 novembre prochain à Québec. Créé par Homme Québec en 2019, ce prix récompense une personne et un organisme qui ont contribué de manière significative à l'amélioration de la santé et du bien-être des hommes au Québec. De nombreuses études et statistiques démontrent que de parler de santé et de bien-être des hommes est encore aujourd'hui très pertinent, puisque le taux de suicide est 3 fois plus élevé chez les hommes, particulièrement chez ceux âgés entre 50 à 64 ans. Alors, je vous en reparlerai davantage, puisque c'est aujourd'hui que la campagne est lancée. Pour plusieurs jours, un groupe d'accueil virtuel offert tous les jeudis à 19h à ceux qui désirent vivre l'expérience sans avoir à s'engager dans un groupe régulier. C'est possible. Pour en savoir plus sur l'organisme et ses groupes de parole et d'écoute, vous pouvez vous rendre à homme-québec.ca. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Merci Mathieu Tessier en régie. On se retrouve demain, je l'espère bien, à compter de 9h30. Bonne journée.